Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon invité est Jean-Paul Tullier. Bonjour Jean-Paul. Ah, j'ai perdu.
Bonjour Martine.
Ah bon, j'avais peur de vous avoir perdu parce que vous êtes dans une lointaine contrée. Alors, donc, nous allons parler ensemble de votre venue à Nîmes, bien sûr, puisque le 21 juin, vous nous avez fait le plaisir et l'honneur de parler d'une de vos spécialités, le sport dans l'Antiquité, lors du Forum du Livre Péplum. Mais tout d'abord, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance, et peut-être parmi les auditeurs, y a-t-il déjà de vos lecteurs, car vous avez écrit pas mal de livres, mais on va commencer par le début. Le début, c'est Lugdunum, apparemment. Vous êtes né à Lyon.
Oui, oui. Je suis né à Lyon, je suis resté à Lyon pendant 20 ans. Ouais.
Ah oui, donc là, ça forge quand même, c'est beaucoup d'années importantes en plus, et vos études au lycée du Parc peut-être.
Alors, j'ai commencé dans des petites classes naturellement, puis dans une annexe du lycée Ampère, et ensuite à partir de la seconde au lycée du Parc en pensant aux classes préparatoires.
Et oui, et donc ça vous a mené à de grandes années puisque vous avez intégré Normale Sup, ce qui est vraiment déjà très très bien, donc agrégation de lettres classiques, vous êtes un latiniste hors pair, historien de l'Antiquité, mais en plus de tout ça, ce qui est déjà pas si mal, vous avez été membre à Rome de l'École française.
Oui.
Alors comment ça s'est fait ça?
Bah, c'est-à-dire que quand on était, à l'époque, en tout cas, ça se passait comme ça, quand on était normalien, qu'on faisait des recherches sur qu'on faisait des recherches sur l'Antiquité et sur Rome en particulier, enfin sur l'Italie antique, eh bien, on avait de fortes chances d'être nommé membre de l'École française de Rome, ce qui était un privilège extraordinaire pendant 3 ans. Et que j'ai eu, donc.
Donc, est-ce que c'est comme les légendes qu'on entend? Vous étiez logé à Rome, vous baigniez dans toutes ces merveilles.
Oui, enfin, j'étais logé à Rome. Enfin, je me suis logé à Rome parce que dans les temps plus anciens, les membres de l'école étaient même logés au Palais Farnèse.
Oui, je croyais que c'était toujours comme ça, d'ailleurs, moi. Non, c'est plus comme
non,
ça.
Non, c'est fini. C'est fini depuis bien longtemps. Non, j'avais un appartement romain, ça coûtait très cher d'ailleurs à l'époque, et je crois que ça coûte encore plus cher aujourd'hui. Non, on n'était pas logés, mais bon, on était là dans des conditions si bonnes qu'on ne va pas commencer à faire des remarques déplaisantes.
Et alors ces 3 années, elles permettaient de faire quoi? Donc de poursuivre des études, mais est-ce que vous aviez l'occasion d'aller sur des fouilles archéologiques? Est-ce que vous étiez ouvert à toutes ces nouveautés qui se tramait?
Oui, bien sûr, ça c'était important. On faisait des travaux de recherche, naturellement, c'était le point essentiel, c'était essentiellement comme chercheur qu'on était pris. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait d'ailleurs des travaux collectifs à l'époque, et même si on n'était pas enthousiaste, on devait plus ou moins y participer, et c'était en particulier les fouilles archéologiques. Mais moi, j'étais archéologue, je me sentais archéologue, et donc c'est avec plaisir et vraiment beaucoup d'intérêt que j'ai participé à diverses fouilles, à Bolsena d'abord, qui était une fouille traditionnelle de l'École française de Rome, à une centaine de kilomètres au nord de Rome, dans un paysage absolument fascinant, ravissant, au bord du lac. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire des fouilles à Rome même, pas vraiment pour l'École française, mais avec des collègues italiens dans la banlieue romaine. Nous avons fouillé à Castel di Decima, une nécropole très ancienne. C'était une fouille très difficile, mais qui historiquement était vraiment très, très importante. Et puis, j'ai fouillé également dans le Palais Farnèse lui-même, dans les caves du Palais Farnèse, où avec deux de mes camarades, eh bien, nous avons fait des fouilles pendant plusieurs semaines au fond du palais, sous le palais lui-même.
Et alors, vous avez exhumé des choses importantes?
Alors, il y avait déjà des choses importantes qui avaient été mises au jour, en particulier bon, il y avait toute une série de vestiges, parce que là, on se trouve au champ de Mars, et pratiquement toutes les maisons, les palais sont construits sur la ville romaine. On est en plein sur la ville romaine. Et là, on avait déjà découvert au début du siècle une mosaïque assez étonnante représentant des cavaliers acrobates, qui moi m'intéressait parce que je me suis intéressé, comme on aura l'occasion de le dire, au sport et en particulier aux compétitions équestres. Et dans la fouille que j'ai eu l'occasion de mener dans un autre couloir des caves du palais Farnèse, on ne pouvait pas fouiller n'importe où, n'importe comment, on n'allait pas démolir les murs de fondation, naturellement, qui souvent étaient des murs antiques. Eh bien, j'ai découvert un site que je n'ai pas complètement interprété à l'époque, mais dont je me suis rendu compte après, en revenant dessus, que c'était sans doute le siège d'une des écuries des
Ah
fameux jeux du cirque,
oui.
et ça rentrait en fait en plein dans mon domaine. Mais à l'époque, je n'avais sans doute pas osé franchir le pas et penser que j'étais dans une des stabulas, puisque c'est comme ça qu'on les appelait. Des quatre stabula de Rome et des factions romaines qui ont joué un rôle aussi important. Et maintenant, on en connaît deux de façon sûre à côté du palais Farnèse. Et pour ma part, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans un colloque qui était organisé à Caen par nos
Oui,
amis, justement, Philippe Fleury
en
et
2015.
Sophie sur la topographie de Rome. Et moi, j'ai traité justement de cette ancienne fouille en montrant que il fallait sans doute interpréter les vestiges comme étant ceux d'une des écuries de Rome, sans que je puisse déterminer la couleur. On connaît désormais les rouges et les verts, mais donc c'était soit les bleus, soit les blancs, mais ça, je n'ai pas de document pour arriver à la conclusion.
Oui, et cependant, j'avance un petit peu par rapport à la deuxième partie de notre émission, mais vous avez dans un livre privilégié les rouges, hein, puisque vous avez intitulé un de vos livres Allez les rouges.
Oui, c'était Allez les rouges, mais j'ai aussi écrit un article il y a longtemps qui s'intitulait Allez les verts.
Ah
Alors
bon,
donc,
ça va alors.
il fallait surtout pas lui donner une connotation particulière.
D'accord.
Mais c'était, oui, oh, c'était un titre
Oui.
qui évidemment pouvait surprendre et intéresser. Vous savez bien que on est obligé de trouver des titres et
Ah, mais il est très
des
beau ce
moyens
titre. Oui.
d'approcher le lecteur. Voilà.
Oui, bah surtout que Aller les Verts, c'était pris par le foot, hein, je crois déjà. Donc,
Alors, allez
il...
les verts, oui, mais ça remonte justement à l'époque où. Bah oui, mais ça remonte à l'époque où, bien que lyonnais. Je fus obligé de reconnaître que l'équipe de Saint-Étienne était la meilleure. Et donc, Allez les Verts, c'était effectivement un cri qu'on entendait souvent sur les gradins. Mais le public romain criait Allez les Verts ou Allez les Bleus. Hein,
Oui.
c'était.
Oui, et c'était vraiment un
En
engouement
français,
terrible. On va en reparler. Donc, de cette expérience à Rome, ben, il vous est resté beaucoup de choses, mais notamment donc a posteriori, cette interprétation très nouvelle de ce que vous aviez fouillé à l'époque sans vraiment reconnaître ce que c'était au départ. Parce qu'effectivement, au départ, cette histoire du stade de Domitien, elle est fort peu travaillée.
oui, alors c'était le stade de Domitien. Le stade de Domitien, lui, il était connu parce que, comme c'est la place Navone, comme
Oui.
ça correspond à la Piazza Navone, hein, à la place Navone, et que on avait eu l'occasion de descendre, là encore, dans des caves de certains cafés, l'École française de Rome, aujourd'hui, a des locaux place Navone. Ce n'était pas le cas à l'époque. Mais on fréquentait les cafés de la place. Et il y a un patron en particulier qui était passionné de topographie romaine qui nous avait fait descendre dans les caves. Donc,
Ah
non
oui,
seulement
d'accord.
on voyait des vestiges du stade de Domitien, comme Philippe Fleury a eu l'occasion de le rappeler, on a toujours vu certains vestiges de ce stade de Domitien, mais là encore, nous, mes camarades et moi, on avait pu voir certains des vestiges qui n'étaient pas très connus à l'époque et qui maintenant ont été mis en valeur sous l'école française de Rome en particulier et juste à côté.
Et oui, parce qu'en plus, il y avait des confusions sur l'utilisation de ce bâtiment qui était sous la Piazza Navone et les gens ont pu employer les mauvais termes. Donc là, maintenant, cette fois-ci, tout est bien clair. Je retourne à votre parcours. Donc, quand vous avez quitté Rome, ça n'a pas dû être facile d'ailleurs hein, de quitter Rome, qu'est-ce que vous avez fait et comment êtes-vous arrivé à l'une de vos spécialités? Parce que partout, votre nom évoque d'abord ça, les Étrusques.
Oui, mais avant même de partir à Rome, je travaillais déjà sur les Étrusques. Quand j'étais à l'école normale, quand j'étais rue d'Ulm, j'avais suivi un séminaire qui était donné par Jacques Heurgon, qui était l'étruscologue français le plus connu, et qui avait écrit un très beau livre sur la vie quotidienne chez les Étrusques. C'était une collection qui était très bien. Je crois qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Mais en tout cas, les cours les séminaires de Jacques Heurgon m'avaient beaucoup plu, plus que d'autres. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire, dès la maîtrise, à l'époque, on appelait ça le diplôme d'enseignement supérieur, de travailler sur la période étrusque. En partant à Rome, j'étais déjà, d'une certaine façon, un peu étruscologue, même si je n'ai pas vraiment eu l'occasion de participer à une fouille étrusque à ce moment-là. Donc c'était déjà mon sujet de recherche. Et à la fin, un peu avant de partir à Rome, j'ai eu l'occasion, alors toujours dans un cours, vous savez, c'est pas à vous que je vais dire que il y a des professeurs qui jouent toujours un rôle important dans le destin des élèves. Et entre parenthèses, sans vouloir revenir trop loin en arrière, j'ai fait des études de lettres classiques, mais je n'aurais jamais dû en faire vu le milieu ouvrier dans lequel j'étais né. Mais je ne veux pas rentrer dans l'histoire de ma famille, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a eu un professeur en sixième ou en cinquième, je crois, qui a dit à ma mère, on venait de créer les IPES, hein, je ne sais pas si
Ah
vous vous
oui, ça,
souvenez.
oui, entre-temps ça a disparu,
Et
mais oui, ça me parle. Oui.
oui,
Moi, ça venait de
ça.
disparaître quand j'ai voulu les passer.
Ce professeur a expliqué à ma mère que ça me permettrait, comme normalement, étant donné mes résultats habituels, je devais réussir le concours, que je serais donc payé pour commencer des études si j'acceptais de devenir professeur naturellement. Et donc ça a rassuré mes parents qui se sont rendus compte que je pouvais quand même faire des études supérieures sans que ce soit trop dur pour eux, évidemment. Après, à Normale Sup, je suis devenu élève fonctionnaire stagiaire, comme on disait. Et donc là, j'ai pu évidemment les soulager totalement de ce point de vue. C'est même assez drôle d'ailleurs parce que lors de mon premier mois de traitement, je me suis aperçu que je gagnais plus que mon père, qui trimait évidemment dans des conditions beaucoup plus difficiles que les miennes. Bon, mais ceci est une autre histoire.
Mais ça
Donc
doit
j'ai
être assez
rencontré.
troublant parce qu'on doit être à la fois très fier et puis peut-être ne pas trop oser en parler à la famille.
Ah ouais, oh non, ça je pouvais. Vous pouvez en parler, mais c'est vrai que c'était presque gênant.
Oui, voilà. Mais
C'était
bon.
presque gênant de. Mais enfin bon, c'était pas non plus des sommes extraordinaires. Hein, c'était pas ce qu'on voit aujourd'hui.
Oui.
Je n'étais pas
C'était pas le
trader quand
salaire
même.
des joueurs de foot, hein? Non, pas du tout.
Voilà, c'est pas
Ni des
le
conducteurs de chars dans l'Antiquité.
truc.
Mais alors, vous
Exactement.
disiez que vous n'auriez pas dû faire des lettres classiques pour des raisons financières et que vous avez pu, grâce aux IPES, les entamer et les poursuivre. Mais pourquoi les lettres classiques? Pourquoi petit avez-vous eu cet engouement?
Ah, c'est parce que d'abord j'aimais bien ça, et puis j'étais quand même bon en français, latin, grec, même si j'étais encore assez bon en sciences à l'époque. Et quand je suis rentré au lycée du Parc, j'étais dans la section A', je ne sais pas si ça vous dit
Ah
quelque
oui, ça,
chose.
j'ai entendu parler de ça, oui, de cette
On
manière.
faisait à la fois des lettres classiques et
Et
des
des sciences,
sciences,
oui.
un excellent niveau. Ce qui fait qu'au lycée du Parc, on était 11 dans cette section et les 10 autres ont réussi Polytechnique, en gros, hein. Et je suis le seul à être parti à Normale Sup, lettres naturellement, et pas sciences.
D'une certaine
Mais
façon, vous êtes quand même polytechnique puisque vous avez pas mal de cordes à votre arc.
oui. Enfin, je ne me sens plus polytechnicien au sens vraiment scientifique
Oui.
du terme. Aujourd'hui, j'ai bien perdu de ce côté-là. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai donc rencontré un. Ça, c'était à l'école pratique des hautes études, un autre professeur, Raymond Bloch, par lequel je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler sur le sport. On pouvait faire des études, des recherches sérieuses sur le sport antique. Il nous avait montré quelques livres écrits par des auteurs étrangers. En France, ça ne se faisait pas beaucoup. Et donc, je me suis dit que j'allais pouvoir concilier mes deux passions, en quelque sorte, les Étrusques d'un côté et le sport de l'autre, l'histoire du sport. Et c'est comme ça que je suis devenu, en quelque sorte, un spécialiste de l'histoire du sport antique.
Alors, c'est la parfaite conclusion de cette première partie, car nous allons ensuite, après un petit intermède étruscolo-musico, je ne sais pas comment il faut dire, de la musique reconstituée, bien entendu. Après, nous reparlerons justement du sport business dans l'Antiquité. À tout de suite, Jean-Paul. C'est la deuxième partie d'Antiquissimo sur Radio Alliance Plus. Il nous reste peu de temps parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais il nous en reste tellement encore à dire. Nous sommes toujours avec Jean-Paul Thuillier, qui est le spécialiste des Étrusques, bien sûr. Mais là, maintenant, nous allons parler de sa passion pour le sport et de sa compétence à dire quel il était dans l'Antiquité. Alors d'abord, quel sport l'Antiquité, c'est très vaste, hein, donc on va essayer quand même de cibler un petit peu. Et si on s'arrête à Rome, puisque la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à Rome que nous nous situions. À Rome, qu'est-ce qu'on pratiquait comme sport?
Alors, il faut distinguer évidemment le sport que pratiquaient les citoyens eux-mêmes pour leur entraînement, pour leur santé. en particulier dans le champ de Mars. Hein, il y a beaucoup de textes d'Horace, par exemple, ou Martial, que vous
Martial, oui.
connaissez bien, qui évoquent justement tous ces exercices auxquels se livrent les citoyens romains sur le champ de Mars. Et ensuite, ils vont plonger une tête dans le Tibre, qui ne devait pas encore être trop pollué à ce moment-là. Ça c'est pour. Et c'était absolument nécessaire. On dit souvent que les Romains ne faisaient pas de sport. C'est complètement absurde. Comment les Romains auraient-ils pu conquérir le monde, hein, les légionnaires, des citoyens, s'ils n'avaient pas eu un entraînement sportif? C'est évident que les Romains étaient aussi des sportifs, mais on identifie tellement le sport à la Grèce antique qu'on a tendance à penser que les Romains n'ont pas fait de sport. Il faut dire qu'ils ont donné aussi quelques raisons de penser qu'ils n'étaient pas vraiment des sportifs dans l'âme. Mais en réalité, ils en faisaient. Et puis, il y a à côté de ça le sport spectacle, les ludi, qui étaient pratiqués par des professionnels et qui étaient pratiqués très souvent d'ailleurs par des esclaves ou des affranchis, les affranchis qui étaient souvent d'anciens esclaves au départ. Et parmi ces sports, ce sont évidemment ces spectacles sportifs, ce sont évidemment les courses de chars qui l'emportent de très loin, les jeux du cirque, au sens réel du terme, les
Voilà.
ludi circenses, alors que très souvent, on a tendance à. Aujourd'hui, quand on dit les jeux du cirque, les gens pensent immédiatement gladiature et chasse. Ce n'est pas le cas.
Non.
Ce ne sont pas les spectacles de l'amphithéâtre, ce sont les spectacles du cirque, c'est-à-dire des spectacles sportifs dans lesquels des compétitions athlétiques, mais surtout des compétitions hippiques, les fameuses courses de chars, c'est Ben-Hur, hein. Pour reprendre le vocabulaire péplum, c'est Ben-Hur et c'est pas Spartacus. Voilà.
Oui, alors ces courses de chars, on les imagine bien sûr, bien qu'il n'en reste pas grand-chose, on peut très bien imaginer ce qui se passait dans le Circus Maximus, mais dans le stade de Domitien aussi, on pouvait exercer ce genre de sport.
Ah non, pas du tout. Le stade de Domitien, d'abord, le stade de Domitien, il est beaucoup plus petit,
Oui.
il est beaucoup moins long, il est beaucoup moins large. Il n'y a que des compétitions athlétiques, uniquement athlétiques, des courses, des lancers, et ou bien des spectacles divers, mais en tout cas, absolument pas de courses de chars. Il faut surtout pas confondre un stade. Et à Rome, il n'y a pratiquement pas eu de stade, à part le stade de Domitien,
Oui.
justement. Et les cirques, qui sont des édifices beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, beaucoup plus imposants et beaucoup plus anciens. Les jeux du cirque à Rome, les courses de chars, remontent à l'époque étrusque, hein.
Oui, ce
En
sont les jeux
réalité,
funèbres, oui.
il y a un lien entre les deux. C'est parce que je me suis aperçu en travaillant sur le sport étrusque que les Étrusques avaient eu une grande influence sur le sport romain, en particulier pour ce qui est des courses de chars. Et donc là, ça remonte au 7e siècle avant notre ère, tandis que les compétitions athlétiques à Rome ne datent que du 2e siècle avant, et comme son nom l'indique, hein, le stade de Domitien n'est que de la fin du 1er siècle de notre ère.
Oui, c'est parce que Sophie Madeleine et Philippe Henry disaient que parfois il y avait les proportions du stade de Domitien pouvaient faire penser que parfois il pouvait servir d'auxiliaire de place pour des petites courses de chars. C'est pour ça que je vous disais ça. Mais effectivement, ce sont plutôt les jeux athlétiques que vous avez cités. Et dans vos livres que j'ai lus avec tellement d'attention, vous parlez aussi d'un sport roi à Rome, la boxe.
Ah oui, alors ça c'est dans les compétitions qu'on appellera athlétiques, même si les Romains n'employaient pas le terme, sauf pour justement des athlétae qui étaient plutôt des Grecs et plutôt des athlètes qui participaient aux courses et au pentathlon, les sports de combat. Pour les sports de combat, les Romains garde les termes latins de pugiles, boxeur, de luctatores, lutteur, et il parle aussi des coursores pour les coureurs à pied. Mais en tout cas, les pugiles, oui, c'est sûrement le sport roi, le sport de type athlétique roi à Rome. Et là encore, c'est manifestement une influence des Étrusques, où le pugilat en Étrurie a été très souvent représenté sur les fresques,
oui,
et fait l'objet de plusieurs commentaires chez des auteurs anciens, ce qui est quand même très, très étonnant. Et pour résumer les choses, il y a un texte de Tite Live dans le livre 1, qui est un livre extrêmement concis sur toute la période royale de Rome. Or, il trouve le moyen de préciser à propos de Tarquin l'Ancien que celui-ci a organisé des jeux à Rome et le programme était constitué de pugiles, donc de boxeurs, et d'équi, c'est-à-dire de chevaux, course de chevaux, ex Etruria Maxime Aquiti, que l'on avait fait venir principalement d'Étrurie. Et ça, c'est à la fin du 7e siècle avant notre ère. Et donc ça résume tout sur les deux sports favoris des Étrusques, les courses de chars de très loin, et puis aussi la boxe à côté, que les Romains vont donc reprendre. Et c'est là que les influences étrusques ont été importantes.
Et ils en font vraiment un spectacle assez violent, mais un spectacle à part entière.
Ah ben c'est un spectacle violent. Ben, de toute façon, la boxe, c'est ce qu'on appelle les sports de combat. Hein. La boxe n'a pas pour vocation d'être un sport de douceur.
Oui, et il y a une statue fort célèbre qui représente un boxeur après le combat et certainement assez âgé. Et on le voit effectivement usé par le combat avec des blessures qui sont visibles.
Oui, c'est le pugiliste assis du musée des Thermes, hein,
oui,
qui a été découvert à l'emplacement des Thermes de Dioclétien. Et alors, en fait, il s'est... C'est une statue dont la datation est controversée, mais en fait, c'est une statue qui date sans doute 3e siècle avant notre ère, hein, qui est une statue en fait hellénistique, hein, plutôt grecque que romaine, hein, mais en fait qui correspond tout à fait à ce que les Romains vont faire, au type de boxe que les Romains vont pratiquer.
Très bien, on n'a pas tout dit comme je vous l'avais annoncé dès le début de l'émission. Il y a tellement à dire, mais on peut lire vos livres. Et notamment, donc, j'ai cité Aller les Rouges, mais aussi l'histoire du sport dans l'Antiquité qui brasse le sport grec, étrusque, romain. Et je vous conseille de le lire parce qu'on apprend énormément de choses. Merci Jean-Paul et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.